This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو بلوبي.
From CNN Radio 7.
من راديو داجا.
برازيل. كاسي كينجا.
تركيا فوتورا. سلاما.
روسيا.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde spécial, aujourd'hui autour du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Avec les correspondants et les envoyés spéciaux de France Inter, nous passerons par la Russie, car c'est l'armée soviétique qui a libéré le camp en 1945. Nous entendrons le témoignage d'un lieutenant au micro de Marc Crépin. Puis nous irons en Israël, où Sébastien Legénie nous parlera de la manière dont la Shoah est enseignée à l'école. Depuis la Pologne, Cyril Sauvageau nous décrira ce qu'on pourrait appeler le tourisme de la mémoire. Aller à Auschwitz est aujourd'hui une destination très particulière, ce qui soulève de très nombreuses questions, on le verra. 18h55, c'est l'édito d'Alain Frachon en forme de retour en Grèce, où nous étions hier soir en direct depuis Athènes. Pour Alexis Tsipras, l'enjeu maintenant est de passer de la campagne électorale gagnée au gouvernement effectif. De quelle manière peut se faire cette transition? Alain Frachon nous en dira plus tout à l'heure.
France Inter. Un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
François Hollande, ce matin, au mémorial de la Shoah à Paris, dans le quartier du Marais. Puis, au micro de Marc Crépin, le lieutenant Ivan Stepanovitch Martinouchkin. Le 27 janvier 1945, avec son escouade, il entrait dans Auschwitz.
Le 27 janvier 1945, vers 15h, les armées soviétiques ouvraient les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau. C'était la révélation de l'horreur. Ce n'était pas encore une libération.
On me demande souvent, est-ce que nous savions que là-bas, il y avait un camp comme ça? Est-ce que nous avions pour but de libérer ce camp? Je dois vous dire qu'on ne savait rien. Et je crois que les officiers supérieurs ne savaient pas non plus ce qu'était Auschwitz et ce qui s'y passait. Nous étions en train de traverser un village et on est ressorti dans les champs. Tout à coup, on est tombé sur une barrière avec des barbelés des deux côtés, une clôture fixée sur du béton, une clôture électrifiée. C'était le camp, mais nous ne le savions pas encore. Derrière les fils de fer barbelés, il y avait des bâtiments. Ils étaient alignés, c'était des logements. Nous pouvions même imaginer que c'était une base ou un entrepôt des Allemands. Et puis, nous avons commencé à apercevoir derrière les clôtures, entre les baraquements, des gens, des groupes de gens. Dans un premier temps, nous n'avons pas compris qui ils pouvaient être, mais eux, ils ont deviné les premiers qui nous étions. Et puis, nous avons compris que c'était les prisonniers. Après cette première phase de notre travail, mon escadron n'avait pas reçu d'autres missions.
Bonsoir Georges Bensoussan.
Bonsoir.
Vous êtes historien, grand spécialiste de la Shoah et de la délicate, de la douloureuse transition de la mémoire vers l'histoire. Quelle est votre réaction quand vous entendez la voix de ce vieux monsieur, de ce vieux soldat de l'armée rouge qui devait être un tout jeune homme à l'époque, en 1945, quand le 27 janvier, il pénètre à Auschwitz?
Ce qui est extraordinaire dans ce reportage, c'est qu'il dit plusieurs choses à la fois. Il dit premièrement le fait que l'armée rouge n'a pas libéré le camp d'Auschwitz. Le camp d'Auschwitz a été abandonné par les Soviétiques une dizaine de jours plus tôt. Par les nazis. Une dizaine de jours plus tôt. Il dit aussi le fait que le quidam moyen, l'officier de base de l'armée rouge ne savait pas, et c'est tout à fait vrai, mais qu'en revanche, du côté de la classe politique ou du côté des dirigeants soviétiques, comme anglo-saxons d'ailleurs, et comme tous les dirigeants alliés et neutres, on savait parfaitement ce qu'était Auschwitz. C'était parfaitement localisé, on l'avait photographié, même l'aviation américaine l'avait photographié photographié pratiquement 9 mois avant, en avril 1944.
Mais c'est étonnant de voir à combien de reprises il dit « nous ne savions pas, nous ne voyons pas, nous ne savions pas qui c'était, nous pensions que c'était... » C'est incompréhensible en fait ce qu'il voit.
Absolument,
à l'instant T, en 1945, on ne sait pas ce que c'est.
Oui, c'est tout à fait juste. On ne sait pas ce que c'est. Il veut dire par là que c'est totalement inconcevable, totalement impensé. Et là-dessus, il le dit très bien. Et même pour ceux qui étaient informés de la réalité d'Auschwitz, même eux, ils le savaient, mais ils ne pouvaient pas se représenter ce que ça pouvait réellement être sur le terrain.
Et c'était quoi alors, quand il décrit ces quelques personnes qu'il voit passer, il restait qui dans le camp ?
Il restait 7000 personnes sur les plus de 70 000 qu'il y avait le jour d'évacuation, le 18 janvier 1945. Entre 58 000 et 60 000 ont été envoyés sur les routes vers les marches qu'on a appelées les marches de la mort, vers l'ouest, pour ne pas tomber aux mains des soviétiques. Les 7000 personnes étaient des quasi-grabataires, des mourants, des typhiques, des tuberculeux au dernier degré, bref, des gens qui étaient en train progressivement, ce qu'on appelait les musulmans dans le camp, progressivement de mourir. Donc absolument hors d'état de pouvoir marcher. Ils ont été abandonnés là par les SS qui n'ont même pas eu le temps de les fusiller en masse, parce que c'est ce qu'ils auraient voulu, faire supprimer évidemment toutes les traces. Mmh. Voilà qui étaient ces fameux survivants dont Primo Levi d'ailleurs faisait partie.
Écoutez, Georges Bensoussan, cette rescapée d'Auschwitz, elle s'appelle Krystyna Kobylanska. Elle est polonaise, mais elle n'est pas juive. Au micro de Béatrice Duguay, elle parle avec une infinie pudeur de ce statut étrange aux marges de l'histoire.
Je me sentais un tout petit peu décalée. En France, le témoignage est fait surtout par les Juifs. Et je suis tout à fait... D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis juifs en France. Mais on parle souvent que les Polonais étaient antisémites et que c'est les Polonais qui étaient capots. D'ailleurs, j'ai entendu ça à la radio, ça m'a fait beaucoup de mal. Peut-être qu'il y en avait, mais c'était les gens de droit commun.
Vous pensez qu'en France, votre histoire n'est pas audible ?
N'est pas audible du tout. L'histoire, et ça se comprend parce que, bien sûr, les Polonais n'étaient pas aussi nombreux que les Juifs. La tragédie des Juifs est colossale. Le camp a été organisé surtout pour les Polonais. Et les premières années, c'était les Polonais qui étaient là. Tout le monde connaît l'Auschwitz très bien grâce aux Juifs parce qu'ils étaient les victimes les plus importantes. Et puis, il y a parmi eux, il y a beaucoup de gens très doués qui pouvaient écrire l'histoire parce qu'ils ont vécu après à l'Ouest. Tandis qu'ici, dans le pays qui était communiste, cette martyrologie n'était pas bienvenue. Et moi, quand j'étais enfant, j'avais honte de raconter que j'étais à Auschwitz. Je trouvais que c'était une plaie sur ma vie, que je suis moins intéressante, j'ai moins de valeur comme personne, parce que j'étais à Auschwitz. Et je détestais de raconter, quelquefois bien sûr il fallait le dire, mais je n'aimais pas ça. Maintenant, si je le dis, c'est tout simplement pour témoigner, parce que maintenant je suis un peu à côté de cette chose, j'ai vécu ma vie. Les blessures, il faut que je vis avec les blessures, mais maintenant, ma vie, bien sûr, se termine. Je suis déjà sur la pente descendante et je sais que mon témoignage peut avoir une importance pour l'avenir, pour ceux qui vont vivre et qui voudront peut-être savoir quelque chose sur cette histoire terrible.
Expliquez-nous, Georges Bensoussan, essayez de nous faire comprendre le poids, la valeur de ce témoignage dit sur une voix, un ton de voix très, très faible.
Très faible et très calme. Et cette femme dit des choses très essentielles. Elle dit d'abord que Auschwitz a été créé pour les Polonais, elle a raison. Il était ouvert en juin 1940, ce camp qui est une ancienne caserne polonaise désaffectée. Et les premiers détenus qui arrivent sont des détenus polonais, c'est tout à fait juste. Des détenus allemands aussi, des détenus allemands politiques, entre autres des communistes. Bon. Et ce qu'elle dit en filigrane, même si elle ne l'explicite pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas un Auschwitz, mais plusieurs. Il y en a trois en réalité. Auschwitz 1, c'est le camp de concentration, où là sont détenus, entre autres, beaucoup, beaucoup de détenus polonais, des politiques, des droits communs, tout simplement aussi des gens raflés dans la rue. Bon. Auschwitz 2... à laquelle elle fait allusion, mais qu'elle ne nomme pas, qui est Birkenau, et le camp spécifiquement destiné aux Juifs. Et c'est ça, le centre de mise à mort, où il y a des détenus, effectivement, mais il y a surtout un arrivage constant de juifs de toute l'Europe occidentale, septentrionale et du sud, méridionale, entre autres les juifs de Grèce ont été assassinés là-bas, qui est un véritable centre de meurtre de masse, qui est l'équivalent pour le judaïsme ouest européen de ce qu'a été Treblinka ou Belzec pour le judaïsme polonais. Un abattage dans les chambres à gaz de Birkenau. Il y a même un troisième Auschwitz, Monowitz, qui est le centre industriel là où travaillait précisément Primo Levi.
Le poids du silence dans le bloc de l'Est après-guerre, elle le dit très clairement, c'est une réalité.
Totale. Elle a parfaitement raison. C'est même plus que ça. C'est pas seulement après-guerre, c'est dès le début des massacres que l'Union soviétique fait silence sur la nationalité de victimes, je précise. Le commandement soviétique, le commandement de Moscou, donne toujours la nationalité des victimes entre 1941 et 1945, lorsqu'il y a des pertes sur le front ou lors des bombardements sur les populations civiles. Il ne donne pas la nationalité juive. Or, juif en Union soviétique est une nationalité, comme géorgien, comme biélorusse, comme ukrainien. Il y a une volonté de faire silence sur la judéité des victimes qui pose problème et qui mérite évidemment des réponses. Mais ça, c'est certain, ne se trompe pas, oui. Après, à partir de 1941, a fortiori après 1945, dans l'ensemble du bloc communiste, il y a un silence total sur la judéité victime. On ne parle pas des juifs en tant que victimes, on parle de patriotes polonais ou de patriotes ukrainiens, etc.,
qui ont été victimes. Pour quelles raisons, au fond ?
Il y a deux raisons principales. La première, c'est de ne pas faire en sorte de faire de l'ombre à la catastrophe qu'ont été pour les peuples slaves, l'invasion nazie. Car effectivement, les peuples slaves ont été martyrisés, que ce soit les Serbes, les Polonais, les Ukrainiens, les Russes, a fortiori. Indéniablement, par exemple, les Polonais ont eu 2 millions de victimes civiles. Bon, ça, c'est ce qu'elle dit est vrai. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi un fort antisémitisme dans ces régions-là et qu'on ne veut pas réveiller l'antisémitisme des populations dont on pourrait penser, à l'époque du régime communiste, que ces populations identifiant les juifs au régime communiste, ça ne fasse que renforcer encore un peu plus l'anticommunisme puissant de toutes ces populations soumises.
Et puis il y a en filigrane aussi dans ce témoignage, j'imagine, un parcours de vie classique chez les rescapés, le silence, puis avec l'âge, la volonté de transmettre. Ça, vous avez rencontré de nombreux rescapés qui ont eu cette même histoire-là, absolument, cette même biographie.
Tout à fait, c'est un parcours qui est semblable, quel que soit le pays d'accueil, que ce soit la France, la Pologne, où certains sont restés, mais une poignée, Israël, où un grand nombre se sont réfugiés, ou les États-Unis, ou le Royaume-Uni, bon, peu importe. Le parcours a été globalement le même, en gros, pendant les 20 premières années. Certains ont tenté de parler, ont même beaucoup parlé au début. On n'a pas voulu les entendre, ça a été dit 1000 fois. Les témoignages abondent sur ce sujet. Encore très peu, je lisais un texte superbe de Marceline Loridan Evans, qui a été déportée à Birkenau, qui en revient. C'est son oncle qui vient la chercher sur le quai de la gare, qui lui-même revient aussi de Birkenau, 2 mois avant, et qui lui dit « Marceline, surtout, ne dis rien, ils ne comprendront rien ».
Et ça a été le cas à l'époque.
Ça a été le cas. Ils ne pouvaient pas comprendre, ils n'avaient pas les outils pour cela, ils étaient dépassés par l'horreur même de ce qu'ils entendaient. Donc que durant les 20-25 premières années, il y a eu un silence soit contraint, parce qu'on ne pouvait pas entendre, soit volontaire, parce que ce sont des gens jeunes qui reviennent, qui veulent se reconstruire, qui veulent fonder une famille. Et qu'on ne fonde pas une famille en racontant un récit d'horreur abominable, en disant à ses enfants qu'on a été traité pire qu'un chiffon, moins que rien. Finalement, ne comptant même moins qu'une chose. Personne ne peut grandir, personne ne peut s'épanouir dans un contexte pareil. Donc le silence des deux côtés, si vous voulez.
Oui, et en général, Georges Bensoussan, c'est ce silence-là se fissure à la génération d'après.
Exactement.
Des petits-enfants. C'est les grands-parents qui parlent aux petits-enfants.
Voilà, la génération des enfants entend peu de choses, ça dépend des familles, mais globalement elle entend peu de choses, mais en même temps elle sait beaucoup par un savoir, si vous voulez, subliminal, un savoir infraverbal, et puis elle sait aussi parce qu'on parle autour d'elle, parce qu'il y a des livres, parce qu'il y a des bibliothèques. En revanche, l'âge venu, les rescapés, sentant leurs dernières années venir, veulent absolument témoigner. C'est vrai de tous les rescapés des catastrophes, qu'on pense à ceux du Goulag par exemple, ils veulent témoigner, mais ils vont témoigner auprès des petits-enfants, parce que les petits-enfants, dans la mesure où il y a une génération d'écart, sont moins en danger sur le plan psychique que les enfants. Ce sont donc les petits-enfants qui vont bénéficier du témoignage.
Revenons, Georges Bensoussan, en 2015, à Auschwitz, l'ancien camp de concentration, je le disais tout à l'heure, est devenu l'un des sites les plus visités de Pologne. Et même si le mot peut sembler obscène, Auschwitz est une véritable attraction touristique pour le meilleur et pour le pire. Écoutez ce reportage de Cyril Sauvageau à Auschwitz donc et Cracovie.
1,5 million de visiteurs chaque année, des touristes du monde entier, venus se recueillir dans ce lieu symbolique de la barbarie nazie. Les tours opérateurs de la région ont saisi le filon. Ils sont nombreux à organiser chaque jour des visites express à Auschwitz depuis Cracovie, à 60 km de là. Wojciech travaille pour la compagnie locale Krakotour.
Le matin, nous commençons par aller chercher les clients à leur hôtel. Ensuite, une heure de route jusqu'à Auschwitz, 4 heures de visite sur place, Auschwitz et Birkenau, et vous êtes de retour à Cracovie pour 18 heures. Le tarif, 135 zlotys par personne, environ 30 euros. Ça comprend le transport, la visite et le visionnage d'un film dans l'autocar.
Une fois sur place, on est frappé par la quantité de bus, de groupes scolaires, de voyages organisés, des visites au pas de charge. Le mémorial en lui-même est très sobre, très fidèle à la configuration des lieux, mais difficile parfois de se recueillir au milieu de la foule. C'est le sentiment de Jérôme Deoda, un jeune franco-allemand qui vit dans la région depuis un an. Il travaille au Centre international de la jeunesse.
Pour eux, c'est peut-être comme une attraction, un peu macabre peut-être, mais ils viennent, ils prennent des photos, moi sous le portail à Bartmerfrei, moi devant la chambre à gaz, moi devant le crématoire. Et si on fait juste l'aller-retour en 6 heures, tout va vite, et on n'a pas vraiment le temps de réfléchir et de penser un peu.
Juste à côté du camp d'Auschwitz, la ville polonaise d'Oświęcim, une localité plutôt triste et anonyme, qui bénéficie très peu de la manne touristique. La plupart des visiteurs préfèrent filer vers Cracovie une fois la visite terminée. Cracovie, l'une des villes historiques les mieux préservées d'Europe centrale, un haut lieu de la culture juive jusqu'en 1930, le quartier juif de Kazimierz est devenu une attraction incontournable pour les touristes, comme ce couple de Français, Michel et son mari.
J'ai eu envie de revenir ici, j'étais venue il y a 12 ans, c'est devenu un quartier branché. Je ne fais plus tellement le lien avec la culture juive passée pour l'instant. Mais là, je me dirige vers la place qui jouxte le cimetière juif et nous avons l'intention de faire un dîner dans un restaurant juif.
Des restaurants juifs, il y en a à tous les coins de rue avec une étoile de David en guise d'enseigne. Pas mal de cafés branchés aussi. Depuis la chute du mur de Berlin, ce quartier longtemps délaissé attire beaucoup d'étudiants. Bref, le quartier revit pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que déplore Joachim Rusek. Il est responsable du centre culturel juif.
Les gens viennent ici pour le week-end. Ils font l'aller-retour à Auschwitz. C'est toujours une expérience éprouvante. Et le soir, ils veulent se remonter le moral en allant manger une spécialité dans un restaurant juif, en écoutant de la musique klezmer. La question est, que peut-on accepter? Où est la ligne rouge à ne pas franchir? Comment faire vivre cet héritage? Le risque? C'est que ce quartier devienne un Disneyland.
Disneyland, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai, la cohabitation entre les boîtes de nuit et les plaques commémoratives de la Shoah peut sembler choquante. Pourtant, il y a des aspects positifs. On constate ici une sorte de revival de la culture juive d'Europe de l'Est, avec beaucoup de jeunes qui se lancent par exemple dans la musique klezmer. Mateusz et Ursula, 21 et 19 ans.
We are students of Academy of Music in Krakow.
Nous sommes étudiants à l'Académie de musique de Cracovie. Notre groupe s'appelle Ethnogarden. Nous jouons principalement de la musique klezmer et des Balkans. C'est pas notre culture. Nous sommes polonais, mais la musique juive est super intéressante. On adore ça.
Cracovie accueille même un festival international de la culture juive. C'est l'un des plus importants du monde. Il se tient chaque été et il contribue à cette renaissance. Difficile en revanche de savoir combien de juifs vivent réellement à Kazimierz. Ils étaient 60 000 avant la guerre, le ghetto et les déportations. Il ne serait que 2 à 300 à être revenus s'installer ici.
Georges Bensoussan, je vais rapprocher un certain nombre de mots qu'on a entendus dans le reportage de Cyril Sauvageau. Auschwitz, Shoah, quartier branché, Disneyland. C'est obscène.
Oui, il y a quelque chose d'obscène là-dedans. Il y a une sorte de pornographie mémorielle, c'est vrai. C'est tout à fait, ce que dit le reportage est tout à fait authentique. Je suis allé 3 fois à Auschwitz. Je suis allé donc passer 3 fois à Kazimierz. Alors, ce qui est dit sur les restaurants juifs est globalement faux. C'est tout, c'est la seule exception que je relèverai, à savoir qu'il n'y a pas de vrai restaurant juif, c'est tenu par des non-juifs, des restaurateurs non-juifs, qui effectivement abusent beaucoup de ce folklore mémoriel, de ce folklore yiddish. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un début de renaissance de culture juive en Pologne, à mon avis tout à fait éphémère, tout à fait peu symptomatique, peu emblématique. La seule chose qui soit vraiment apporter au crédit, c'est qu'il y a un renouveau très timide des études yiddish et surtout une école historique polonaise qui travaille très bien sur le sujet.
Bon, donc ça, c'est important.
Ça, c'est très important.
Du point de vue des chercheurs et du travail intellectuel.
Il y a beaucoup d'historiens polonais qui sont relativement peu traduits encore en France. Il y a Gross, qui est le plus connu peut-être, Kouvalet, qui vient de mourir sur Belzec. On l'a publié au mémorial il y a quelques temps. On vient de sortir un livre de Barbara Engelking, une historienne polonaise qui s'intéressait aux juifs cachés dans les campagnes polonaises. Ça, c'est quelque chose de très important.
Et c'est récent.
Très récent.
Très récent.
C'est très récent.
Et ça veut dire quoi? Comment vous l'analysez, ce retour d'intérêt de l'historiographie polonaise pour la Shoah?
Parce qu'il y a une jeune génération polonaise, de quadragénaire, je dirais, qui progressivement sort des clichés antisémites de la culture polonaise classique, qui découvre l'ampleur de la perte qu'a subi la Pologne, 3 300 000 juifs avant la guerre, probablement aujourd'hui 20 000, 30 000, peut-être une poignée. Autrement dit, d'une part entière de la civilisation polonaise qui a été anéantie. Bien, cette jeune génération, qui est prise dans le courant occidental, qui est aussi, en particulier après la chute du mur, elle tente de se réapproprier ce passé.
Georges Bensoussan, est-ce qu'il y a des alternatives muséologiques, muséographiques à ce tourisme de masse? Est-ce qu'il y aurait des moyens de faire autrement pour éviter qu'on fasse des selfies à tel endroit devant Auschwitz, que tout le monde braille dans tous les coins et qu'au fait, en fait, il y ait une forme de profanation doublée de bons sentiments?
C'est très difficile parce que ça relève des autorités polonaises. Le lieu a été classé site international par l'UNESCO, donc il est visitable. Tout le monde peut le visiter. On ne peut pas demander, si vous voulez, aux professeurs de forcément former leur classe bien avant, de les tenir, le moins qu'on puisse dire en tous les cas, dans des attitudes à peu près décentes dans des lieux pareils. Et puis on ne peut pas empêcher non plus le tourisme de masse. Aux autorités polonaises, éventuellement, de prendre des mesures. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est 1 million de visiteurs Auschwitz chaque année, par ordre d'nationalité. D'ailleurs, les Polonais d'abord, les Allemands ensuite, les Français viennent au 4e ou 5e rang. Bon, ce qui est intéressant d'ailleurs en matière de visiteurs, c'est qu'on remarquera que parmi les nationalités, l'une est très peu représentée, c'est l'autrichienne. Il y a très très peu d'Autrichiens. Ce qui marque ceci, c'est que le travail d'histoire n'a pas été fait en Autriche.
Il reste
en revanche, en France, en Italie, l'Italie fait partie des principales nationalités visiteuses. Le travail d'histoire a été fait en Allemagne aussi. Donc, on peut difficilement envisager une police de la visite d'Auschwitz. Mais ce qui est sûr...
Non, mais imaginez peut-être une autre manière de présenter les choses. Il y a en Allemagne différents musées, différentes mises en scène, entre guillemets, de cette catastrophe qui cherchent précisément à transmettre quelque chose aux spectateurs. Qui ne soit pas simplement la simple visite guidée en car sur 24 heures.
L'autre manière, c'est la muséologie. Pourquoi? Parce que dans la muséologie, dans les musées qui sont bien faits, bon, et entre autres, les musées allemands sur le sujet sont particulièrement bien faits. La maison de Wannsee, la topographie de la terreur à Berlin, c'est remarquable, absolument remarquable, je suis d'accord avec vous. Avec des musées bien faits, des expositions bien faites, on fait parfaitement passer le message. Honnêtement, je vous dirais qu'une visite à Auschwitz, pour des gens qui n'ont pas été formés, ne sert strictement à rien. C'est un tourisme mémoriel, une pornographie de l'horreur, parce que, qu'on le veuille ou non, même si ça paraît difficile à dire, il y a une séduction pour le mal. Il y a une séduction pour l'horreur. Il y a une sorte de frisson qui fait qu'on va voir là où ça s'est passé, alors qu'il n'y a rien à voir à Birkenau. C'est-à-dire que tout a été détruit, les chambres à gaz ont été détruites, les crématoires sont en ruine. Sur les 360 baraques, il en reste quelques-unes qui sont rénovées tout simplement pour que ça ne tombe pas complètement en ruine et qu'on puisse visiter. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui ne sait pas ce qui s'est passé là ne voit rien. Qu'en revanche, celui qui est bien formé, qui sait ce qui s'est passé, voit quelque chose parce qu'il peut reconstituer ce qu'a été l'industrie du meurtre de masse comme le principe Fordiste de production des voitures. On fait entrer des hommes et des femmes vivants et au bout de la chaîne, on les transforme en corps puis en cadavres. Donc, en clair, si vous voulez, je suis personnellement peu favorable au voyage scolaire à Auschwitz.
Il est 18h41, c'est un jour dans le monde spécial consacré au 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. On va retrouver Éric Valmire dans quelques instants. Merci d'écouter France Inter. Gonzalez, White Keys. Thank you. Gonzalez, Wild Keys sur Inter, un jour dans le monde, émission spéciale consacrée au 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Dossier également sur le sujet sur le site franceinter.fr. Je vous recommande chaleureusement d'aller y faire un tour.
L'artillerie Bilongaza.
Les séparatistes pro-russes défient les autités ukrainiennes.
À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie accuse la police d'avoir...
Un jour, dans le monde, sur France Inter.
En dépit du tourisme de masse dont nous parlions, visiter Auschwitz reste une expérience, pardonnez-moi, très éprouvante. Éric Valmire, bonjour.
Bonsoir.
Vous y étiez en 2006 lors d'une visite du pape Benoît XVI. Racontez-nous.
Oui, j'accompagnais le Benoît XVI. Je venais juste de prendre mes fonctions de correspondant de Radio France à Rome, mais c'était la visite pontificale de Benoît XVI à Auschwitz. Alors évidemment, beaucoup de discours, de rencontres avec des officiels, des homélies également, des hommages. Et en marge de ce cortège d'officiels, se tenait ce qui se fait régulièrement à Auschwitz, c'est-à-dire une visite de scolaires, donc de lycéens, qui étaient là, et avec un rescapé polonais qui racontait ce qu'il voulait transmettre. Et devant cette classe allemande, c'était une classe allemande, une lycéenne s'est écroulée en larmes. Et le vieux monsieur alors s'est déplacé, il a pris la lycéenne dans ses bras, qui s'est littéralement jeté dans ses bras. Il lui a murmuré, mais longuement à l'oreille des mots. Et il se trouve que ce vieux monsieur parlait français. Et donc, forcément, j'ai recueilli son interview. Il faut les 70 ans d'Auschwitz aujourd'hui pour pouvoir diffuser cette interview, parce qu'à l'époque, en marge du voyage pontifical, ça n'avait aucune place sur les antennes, ça n'avait aucune place dans les tranches d'infos, parce que c'était catalogué hors sujet. Et alors que c'est, à mon avis, tout le sujet. Qu'avait dit cet homme dans les oreilles de cette jeune femme, fille. C'est ce que je vous propose d'écouter maintenant à travers sa voix. Je me trouve bien idiot aujourd'hui parce que je ne peux pas vous donner son nom. Il me l'avait donné, je l'avais noté. Et dans l'émotion, dans je ne sais quoi, j'ai perdu le papier.
On l'écoute.
Je suis arrivé 17 avril 1942. Et mon numéro était 31-119. En tout, 4 ans et 8 jours. J'ai promis à mes amis qui sont morts, quand mon santé est très bon, je pouvais faire ça, je dois expliquer à tous les gens qui arrivent en Pologne, quand on arrive, je dois dire la vérité, je dois dire qu'est-ce qui se passe. Quand je parle dans les camps, ça me revient, toutes les choses-là. C'est très difficile pour moi, mais je parle. Je dis à les gens la vérité. Je sais que dans les camps, quelqu'un m'a gardé. Parce que, demande, c'est une. Pourquoi les autres sont morts et moi non? Ça, c'est une demande. C'est pas facile à expliquer, ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne voulais pas que les enfants souffrent la même chose que nous. J'avais 16 ans dans ce moment-là. Parce que je vais souffrir, pourquoi les autres doivent souffrir? Non. Les enfants qui sont allemands, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Parce qu'ils n'ont pas passé la guerre. Ils ne voient pas la guerre. On doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. On doit savoir. Maintenant, quand j'ai rencontré une jeune fille allemande qui a pleuré, j'avais embrassé elle, j'avais dit non, pleure pas, c'est pas ta faute, c'est la faute du système. J'ai dit non, tu vas avoir les cauchemars. Nous avons passé les cauchemars. Et nous faisons ça que ta vie était meilleure que la nôtre, la plus belle. Tu dois être content que tu vis, tu as le soleil, tu as tout ce que tu as. J'ai embrassé bien fort, elle. Ça, c'est le geste normal. Le geste normal. J'ai pleuré aussi quand j'ai vu qu'elle pleure. C'est plus fort de moi. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comme ça.
N'aie pas honte d'être allemande et vis ta vie sans oublier ce qu'on a vécu, en clair.
Bouleversant, ce témoignage. Hein. Oui. Ça met les larmes aux yeux.
Tout
hein.
à fait, oui.
C'est
comme une philosophie de la vie qui s'improvise là à l'oreille de la jeune fille. Vis ta vie, elle est devant toi, la catastrophe est derrière.
Et surtout, tu n'en es pas coupable. C'est ce qu'il lui dit, il n'y a pas de responsabilité collective et encore moins héréditaire. C'est ça qui est aussi très beau. Ce qu'il dit, et en même temps ce que dit ce très beau témoignage, c'est les voyages scolaires. Les voyages de jeunes sont-ils forcément utiles ? Tant c'est l'émotion qui prend le pas sur la raison. Alors l'émotion, c'est effectivement légitime, c'est très beau, mais après l'émotion, la raison a beaucoup de mal à s'imposer. Or, tout le propre d'un enseignement de la Shoah, c'est de baser sur la raison et sur l'intelligence.
Oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. La pédagogie des larmes, entre guillemets, exactement. Faire pleurer, asséner l'image qui brise le cœur. Quoi derrière ?
Ce qui ne sert à rien, pour la bonne raison que les émotions sont labiles, que nous vivons dans une société d'images et de spectacles, et donc une horreur chassera l'autre demain, et que de cela il ne sortira aucune réflexion politique. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, dans l'humanité, une société humaine en est arrivée à décider qu'un peuple devait disparaître de la planète. Et qu'à travers la disparition de ce peuple de la planète, c'est tout ce qui fait le sujet humain, dans sa dignité, qui a été anéanti. Autrement dit, la catastrophe juive n'intéresse pas les juifs. La catastrophe juive n'intéresse pas que les juifs, au sens où la catastrophe arménienne n'intéresse pas que les arméniens. Et ceux qui pensent que la Shoah est une histoire juive me font penser au proverbe chinois « Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Ça n'est pas ça, la Shoah. La Shoah, c'est une histoire universelle. Et c'est pour ça que toutes les tentatives de nationalisation de la Shoah sont des tentatives déplacées, qu'on peut peut-être comprendre, parce que c'est le but aussi de l'historien, c'est de comprendre, mais qu'on peut aussi ne pas accepter.
Ben on va précisément aller du côté d'Israël maintenant. Israël où aucun élève ne peut échapper à cette sirène. Elle résonne chaque année pour la commémoration de la Shoah autour du mois d'avril. C'est l'ensemble du pays qui se fige pendant 2 minutes et c'est l'occasion dans toutes les écoles de parler de la très délicate question de l'Holocauste. Mais depuis la rentrée scolaire de septembre, ce n'est plus une seule fois par an que le sujet est évoqué en classe, mais toute l'année. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Israël. La transmission de l'Holocauste, son enseignement à l'école, est donc en train d'être profondément modifiée aujourd'hui en Israël.
Oui, en effet. Jusqu'ici, l'État hébreu avait rendu obligatoire l'enseignement de l'Holocauste pour les élèves de 16 et 17 ans. C'est une décision qui datait des années 80 et c'est à peu près d'ailleurs la même chose dans beaucoup d'autres pays occidentaux, en France notamment, où ça commence en 3e puis ensuite en terminale. Mais depuis un an, en effet, le gouvernement de Benjamin Netanyahu a lancé une nouvelle réforme pour également rendre obligatoire cet enseignement dès l'école primaire. On s'est même interrogé pour l'élargir à la maternelle. Alors c'est une réforme assez mal préparée, il faut le dire, très politique et qui inquiète beaucoup de parents et d'historiens. Alors concrètement, depuis le mois de septembre, donc chaque élève du CP à la terminale de l'âge de 6 ans, hein, donc jusqu'à 17 ans, doit recevoir un enseignement autour de la Shoah. Un changement qui est salué, vous allez l'entendre, par cette institutrice, Bracha Goldberg, qui fait classe à des enfants de 8 à 12 ans et qui a choisi de consacrer une heure par semaine à l'Holocauste.
Bien entendu, cette réforme doit se faire graduellement, en fonction des âges, de la capacité émotive et intellectuelle des enfants. Mais ce serait irresponsable que de ne pas enseigner la Shoah, car c'est un événement universel. La Shoah n'est pas un fait qui s'est produit et qu'on peut rayer de l'histoire, c'est une chose sur laquelle on doit mettre en garde. Il n'y a aucun risque de traumatisme, au contraire, si les enfants comprennent ce qui s'est passé, alors ils seront de meilleurs citoyens.
Voilà, le ministère de l'Éducation nationale israélien explique qu'il ne s'agit pas surtout d'infliger aux jeunes enfants des photos insoutenables de chambres à gaz, par exemple. Bien au contraire, il s'agirait de les sensibiliser avec des récits adaptés à leur âge. C'est le centre de Yad Vashem, le mémorial pour l'Holocauste à Jérusalem, qui a été choisi pour penser cet enseignement sur mesure. Yoni Berous est un des formateurs pour les enseignants.
On ne fait pas d'enseignement par la thérapie du choc. Bien sûr, on connaît tous ces images de ces charniers, de ces amas de corps qui a marqué notre mémoire collective. Et nous voudrions donc changer un petit peu cela et de réhumaniser cette histoire. On va plus se focaliser sur de quelle manière ces personnes-là ont essayé de vivre, survivre. On ne sera pas là pour parler des camps de concentration et des ghettos et des camps d'extermination des enfants de 3 ans, mais on peut très bien travailler sur la richesse d'un monde culturel qui existait avant la Seconde Guerre mondiale. On parle, oui, d'un génocide, mais on va essayer de trouver les forces de vie.
Mais le problème, Sébastien, c'est que les directives du ministère de l'Éducation nationale en Israël restent très floues quand même.
Oui, oui, il y a bien des outils pédagogiques sur Internet, des cours, des formations, basées, il faut le préciser, sur le volontariat uniquement. Mais au bout du compte, chaque enseignant fait comme il peut et surtout comme il veut. Et c'est cette improvisation, cette approximation, on pourrait dire, que redoute cette mère de famille, Abigail, mère de trois enfants de 5, 6 et 10 ans.
Je ne pense pas que les enfants avec des maîtresses normales peuvent savoir et peuvent comprendre l'horrible chose que même des adultes ne peuvent pas comprendre jusqu'à fond. J'ai peur qu'ils vont tout confondre. Ils vont mélanger la Première Guerre mondiale avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah. Et même quand moi j'explique, pas toujours ils comprennent. Ça fait beaucoup de cauchemars. Ça peut faire des choses très graves aux enfants si on n'explique pas vraiment profondément et professionnellement.
Et puis, Sébastien, la généralisation de l'enseignement de la Shoah à l'école inquiète aussi certains historiens.
Oui, comme Lucien Lazare, ancien résistant, aujourd'hui âgé de 91 ans. Cet ancien directeur d'école craint que l'Holocauste ne soit encore une fois instrumentalisé politiquement. En clair, cette réforme du gouvernement israélien ne serait pas, selon lui, dénuée d'arrière-pensée nationaliste.
Il n'est pas souhaitable de lancer des programmes qui sont laissés à la discrétion d'enseignants impréparés, non formés, et qui sont sous l'influence de l'ambiance, une ambiance nationaliste qui favorise certaines discriminations. Et je pense qu'une partie des éléments de ce pays ont nationalisé, effectivement, la mémoire de la Shoah et la voient dans la perspective d'une promotion d'un chauvinisme israélien. Ils sont actuellement au pouvoir.
Alors, un exemple de ce risque de nationalisation de la mémoire de la Shoah, chaque année, les élèves de terminale israélien ont pour obligation de se rendre à Auschwitz, un pèlerinage au cours duquel il est devenu fréquent de voir des étudiants porter sur les épaules, dans le camp de concentration, le drapeau israélien.
Sébastien Logeni, correspondant de France Inter en Israël. Réaction, Georges Bensoussan.
Réaction, la première chose, je trouve, je l'ai dit, aberrant d'enseigner à des enfants de CM2 et encore plus tôt, si j'ai bien compris, cette histoire de la Shoah, parce que quand bien même on pourrait édulcorer les images, il reste cette réalité qu'on a voulu effacer de la surface de la terre un peuple. Et ça, c'est inaudible pour un enfant. Il va forcément l'engranger sous la forme émotionnelle, il n'arrivera pas à l'intellectualiser, donc à mettre une distance qui cassera l'angoisse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'enseignement de la Shoah se faisait très bien en Israël jusque-là, avec pratiquement une quinzaine de cours en terminale. Pourquoi une heure par semaine? C'est un véritable matraquage qui va finir par produire l'effet inverse, à savoir une lassitude totale vis-à-vis du sujet. C'est déjà le cas. Les élèves qui terminent le cycle secondaire et qui commencent l'armée en ont assez d'entendre parler de la Shoah en Israël. Ça, c'est peu dit, ça n'est pas dit dans le reportage, mais tout le monde le sait, tous ceux qui connaissent Israël connaissent cette réalité. Le troisième point, c'est qu'on a le sentiment que cet État est né de la Shoah, finalement. Or, c'est faux. C'est un lien de légitimité, oui. La Shoah a rendu encore plus légitime l'État d'Israël, mais pas un lien de causalité. Et puis, fondamentalement, ce qu'il faut peut-être, au-delà, essayer de comprendre, mais pourquoi tout d'un coup ce sursaut autour de la Shoah? Je ne sais pas si c'est forcément une causalité nationaliste, un bas calcul politicien du gouvernement Netanyahou. C'est peut-être aussi le fait que l'angoisse dans la société israélienne se renforce parce que le Moyen-Orient est une région de plus en plus dangereuse. Et donc, plus le temps passe et plus les menaces se réactivent et plus l'angoisse de la Shoah se réactive.
Merci. Georges Bensoussan, historien. Auschwitz en héritage, point d'interrogation, d'un bon usage de la mémoire. C'est le titre de votre livre chez Mille et une nuits, Fayard, qui disait déjà tout ça il y a déjà très longtemps. Le livre n'a pas pris une ride. Je recommande à nos auditeurs de le lire. Merci encore. 18h56.
Un jour dans le monde.
Alors, on va commencer la négociation.
Alors ça, on va y venir, mais
on va reprendre la négociation.
Mais ce n'est pas encore fini.
Sur France Inter.
L'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Nous y étions hier soir en direct. Retour avec vous à Athènes aujourd'hui. La campagne est finie. Pour Syriza, il va falloir désormais gouverner. Comment ça peut se passer?
Appelez ça comme vous voulez, le passage de la campagne électorale au gouvernement, de la protestation à l'administration des hommes, du programme au budget, Nicolas. Mais le contact avec la réalité est toujours une épreuve, particulièrement pour ceux qui, en démocratie, promettent un changement radical. C'est l'abandon du lyrisme pour le pragmatisme, c'est la prise de conscience des limites du volontarisme politique, c'est un moment qui n'est jamais très glamour, ni très plaisant. Alors soyons terre à terre, quitte à être rabattus joie. Cette transition difficile est très exactement ce qui attend le chef de la gauche radicale et nouveau Premier ministre grec, M. Tsipras. Dans le camp socialiste, d'autres sont passés par là avant lui. Les uns promettaient magnifiquement de changer la vie, les autres d'éradiquer la misère. Mais s'il veut vraiment que son pays reste dans l'euro, souhait de la majorité des Grecs, Alexis Tsipras devra passer son programme au tamis serré d'inévitables concessions. Il n'aura pas tout l'assouplissement budgétaire qu'il a promis, et encore moins toute la remise de dettes qu'il sollicite, même si un accord est possible et souhaitable avec les autres membres de l'Union monétaire. Le nouveau Premier ministre a laissé derrière lui à moins de 6% ce qui reste du vieux parti socialiste grec, le PASOK, corrompu et usé par l'exercice du pouvoir en pleine crise de la dette. Mais à la vérité, s'il veut réussir et atténuer le fardeau des Grecs, M. Tsipras devra passer de la gauche radicale à la gauche social-démocrate, voire au social-libéralisme. Un homme a su faire cette transition. Un homme qui venait lui aussi de la gauche radicale et non pas de la gauche socialiste traditionnelle, le Brésilien Ignacio Lula da Silva. Bilan plutôt positif. Plus difficile encore que l'ajustement budgétaire, le dirigeant venu de la gauche radicale doit procéder à de l'ajustement politique. Dire la vérité des choses et des chiffres, ne pas galvauder le sens des mots, assumer l'abandon de certains slogans de campagne et vanter autant les positions de compromis que les positions de principe. C'est ingrat, mais c'est la noblesse de la politique, même et surtout à gauche de la gauche.
Alain Frachon, merci. Un mot pour vous dire qu'à 19h20, le téléphone sonne se penchera sur la possible émergence d'une taxe sur les transactions financières. Hélène Jouan attend toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. Le journal dans 30 secondes.